Yanis et vous, tous les mercredis de 16h à 17h sur Radio HDR.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Yanis et vous, l'émission foot de la Radio HDR. Je suis avec trois merveilleux chroniqueurs qui vont m'accompagner pendant l'émission. Au sommaire donc de Yanis et vous, foot local avec Caen. On parlera de la Coupe du Monde bien sûr, des matchs du 13 décembre, du match de ce soir France-Maroc. Un petit tour de table pour commencer l'émission. On a Wissem qui est avec nous, habitué de Yanis et vous. Bonjour Wissem.
Bonjour Yanis.
Comment tu vas?
Ça va et toi?
Prêt pour le match?
Bien sûr.
Axel, bonjour.
Bonjour Yanis, ça va?
Ça va et toi?
Ça va, nickel.
Impeccable, un beau maillot de l'équipe de France. Et on a un chroniqueur qui est en rouge. Ah. Pas le rouge décevant de la Tunisie de Wissem. Le rouge du Maroc.
Ah,
celui qui est en... Bien sûr, on lance des tacs comme la semaine dernière. Le rouge marocain, son écharpe, un beau maillot.
Un beau maillot.
Bonjour Rachid.
Bonjour mon frère Yanis, ça va?
Ça va Rachid?
Oui, tranquille.
Content d'être là?
Ah oui, content.
Et bien sûr, on sera avec toi pour parler du Maroc, mais bien sûr avec nos amis Axel et Wissem. On a Nicolas à la réalisation. Je vous propose qu'on commence par un peu de foot local. Hein. On est sur la radio HDR. On peut nous écouter partout dans le monde, 99.1, dans votre voiture, sur la télé, sur votre tablette, iPad, tout ce que vous voulez. On va commencer par le foot local, s'il te plaît, Nicolas. Près de chez nous. On va parler de foot local. Axel qui a un petit fou rire sur le jingle. Oui, c'est ma voix, Axel. C'est ma voix. Un petit fou rire. Rachid, t'es nouveau, tu découvres donc ce petit jingle. On va parler du SM Caen, club normand qui a fait un peu les beaux jours de notre Ligue 1 française. Il me semble que ça fait 3 années ou 4 années qu'ils sont descendus en Ligue 2. Caen qui est actuellement 5e de Ligue 2 avec 23 points. Bon, le premier c'est le Havre avec 32 points. Le SM Caen qui a un coach Stéphane Moulin qui met tactiquement des choses bien. L'objectif pour Caen c'est bien sûr le maintien en Ligue 1, sachant qu'il y a deux équipes qui montent. Il y en a une d'officielle et une qui jouera le barrage contre le dernier de Ligue 1. C'est ça, Wissem, normalement?
Oui, contre l'avant-dernier, parce que le dernier descend directement.
Il descendit. Merci, Wissem. Axel, je te propose que tu commences pour Caen, 5e de Ligue 2, 23 points.
Ouais, bah c'est comme tu l'as dit, c'est une équipe qui va jouer la montée en Ligue 1. Comme tous les ans, quand ils sont en Ligue 2, c'est vrai que c'est une équipe qui est habituée quand même à faire l'ascenseur. Ils ont du mal à se stabiliser. Sur les dernières années, ils sont montés beaucoup de fois en Ligue 1 et sont redescendus soit aussitôt, soit l'année d'après. Donc c'est là pour eux, l'objectif cette année, c'est de monter. Ils sont dans la course et on espère pour eux, c'est une équipe normande, donc on espère pour eux que ça va le faire cette année.
Vas-y Wissem, t'as la parole.
Moi, alors mon avis sur Caen, là il faut quand même un bon début de saison, ça va. Avec 23 points égalité avec Valenciennes 6e et Amiens 7e. Ça va, là, ils sont 5e. Leur prochain match, ça sera un match amical contre Quevilly-Roi en métropole.
Bah dis donc, comme par hasard, QRM. On espère une victoire des QRM, ou celle non?
Ah bien sûr, quand même, bien sûr. Après, sinon, leur entraîneur, il fait quand même un bon boulot depuis son arrivée en 2021, avec un bilan de victoires, de nuls et de défaites assez équilibré, avec 20 victoires, 16 matchs nuls et 19 défaites. Sinon, ça va.
C'est un bon
bilan,
club, voilà.
Bon bilan.
Pour une mini-trêve internationale, entre guillemets, parce que c'est historique ce qui se passe avec la Coupe du Monde, Caen fait vraiment du bon boulot avec l'ex-entraîneur d'Angers. Wissem, tu peux nous citer un petit peu rapidement le parcours de Stéphane Moulin, qui a un peu un parcours atypique dans le football.
Oui, il a commencé à Châtellerault de 1997 à 2005 en équipe entraînée. Ensuite, il est parti à Angers... l'équipe B d'Angers de 2005 à 2011. Ensuite, 2011-2021, il a entraîné l'équipe 1. Ouais, voilà, l'équipe 1 d'Angers. Et depuis 2021, il est entraîneur de Caen.
Il a fait du bon boulot à Angers. Hein.
Ouais,
il a eu des bons résultats avec cette équipe qui a peu de moyens quand même.
C'est ce que j'allais te demander. Tu te rappelles, toi, quand même, de Stéphane Moulin?
Ouais, il a eu des bons résultats avec une philosophie de jeu un peu particulière. C'est pas les principes de jeu de Guardiola. Mais avec ses moyens à lui, il a réussi quand même à faire de belles choses et à se maintenir très longtemps en Ligue 1 avec Angers. Donc, c'est un entraîneur qu'on connaît bien et c'est une bonne nouvelle pour Caen de l'avoir pour essayer de monter en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, et cette fois se stabiliser sur du plus long terme.
En plus, Stéphane Moulin, notamment, il avait fait finale de Coupe de France, il me semble, face au PSG. Faut vérifier, Wissam, si tu peux vérifier okay, ça.
Je vérifierai après.
Merci. Oui, donc le SCO, franchement, Axel, tu les vois plus haut ou pas, honnêtement, cette année? Parce que le Havre, franchement, c'est sûr qu'il monte, non?
Ah, c'est sûr, c'est un peu tôt pour le dire encore. Et on n'est même pas à la moitié du championnat avec la trêve pour la Coupe du Monde. Il y a 15 matchs qui ont été joués, je crois. Donc ça va être long. Et puis, comme vous l'avez dit au départ, il n'y a que deux montées cette année. Donc ça va être encore plus difficile. Il y a Le Havre qui est bien parti, c'est vrai. Bordeaux aussi qui est dans la course. Il y a quelques autres équipes. Wissem a dit que Caen était égalité avec Valenciennes et Amiens, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc ça va être la lutte jusqu'au bout, comme tous les ans. C'est jamais facile. Et on peut voir avec le classement, pour l'instant, bon, il y a Le Havre qui a une petite avance, mais il y a personne qui se dégage vraiment.
Il y a Bordeaux, Sochaux. Après, il y a Grenoble, l'ancien club de notre ami Haruna Aboudemba. Après, oui, Wissem vient de me confirmer l'info. C'était finale donc de
2017.
Ouais, 2017 de Coupe de France face au PSG. Ils avaient notamment perdu. Rachid, toi qui es là, pour quand? Un petit avis ou pas?
Non, comme il a dit les collègues, oui, c'est... Non, ils font un très bon parcours. Ouais, je connais pas beaucoup le club, mais ce que je vois, c'est un club qui commence à prendre du pouvoir. Et la Ligue 2, faut savoir que c'est un championnat très, très difficile.
Tout le monde se bat pour rester.
Tout le monde se bat pour rester. Et comme là, il a dit tout à l'heure, il y a les deux premiers qui montent. Tu vois Le Havre, ils ont 32 points. Et les Girondins de Bordeaux aussi 28. Donc en fait, ça joue pas à grand chose, quoi. Et derrière aussi, quand même, t'as Valenciennes et Amiens qui sont derrière. Donc ça va être très, très dur pour Caen, mais en espérant qu'il continue de son continuité. Et j'espère que ça va payer cher.
Ouais, et puis là, on regarde surtout devant, mais quand on regarde derrière, il n'y a pas beaucoup d'écart avec les poursuivants. Il y a le Paris FC, par exemple, qui est 12e avec 20 points.
On les attendait plus haut, le Paris FC, notamment.
Seulement 3 points de retard. Donc, c'est pas... Là, ils sont 5e, le chiffre est sympa, mais s'ils n'enchaînent pas les bons résultats, ça peut vite se compliquer, quoi.
Notamment, comme, vu que tu es marocain, Rachid, et que tu portes haut et fier l'écharpe, notamment, il y avait un marocain qui a joué un petit coup, ils allaient. Rapide, une petite rapide réponse.
Ouais, je l'ai déjà, ton joueur.
Tu vois de qui je parle? Rachid, tu vois pas de qui?
Faisal Fadj.
Ouais, bah, bien sûr, il est chez nous, l'ami Faisal. Faisal Fadj, international marocain qui a joué à Caen.
Qui a joué à Caen, ouais.
Deuxième question. Bon, c'est pas le quiz du jour, mais ça vous entraîne. Culture générale, on l'a déjà fait. Il est venu, Doyen Issimou, au téléphone. Un joueur qu'on a interviewé récemment.
Mathieu Duhamel.
Oh, il est chaud. Il se prépare pour sa 15e victoire.
Je suis prêt aujourd'hui.
Non, Mathieu Duhamel qui a notamment joué à Caen.
Voilà.
Donc, ouais, Caen, franchement, qui fait du bon boulot. Après, comme l'a dit Axel, 5e, voilà, c'est un beau chiffre. Ça peut descendre, ça peut être.
Ouais.
Surtout, cette Ligue 2, finalement, elle est spéciale parce qu'il y a une grosse surprise à la fin du classement. Saint-Etienne. Franchement, ouais. Saint-Etienne. Rachid, vas-y.
Ah oui, Saint-Etienne, franchement, ce club-là, il est une histoire. Et le voir 20e, ça fait mal au cœur parce que. C'est vraiment, c'est terrible parce que c'est comme ce club, il y a beaucoup d'histoires et.
Il a prouvé en Ligue 1.
Ouais. Et là, tu descends, là, t'es dernier en Ligue 2 et tu tires d'avoir le championnat national 1, en sachant que le championnat national 1, il est très, 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 très compliqué. Il est très, très dur. Franchement, je crois que c'est que le premier qui monte, je pense.
Oui, en national, oui, ouais. C'est ça. FCR, il joue en N2, Axel.
Ouais, national 2.
National 2, ouais, c'était Haruna Aboudemba, je cherchais dans ma tête. Oui, il joue à
Martigues.
À Martigues, voilà. Ouais. Oui, il disait que c'était une montée. Oui, il y a quand même un écart entre N1. Ligue 2 Ligue 2, Ligue 1. C'est ça qui est compliqué. Mais toi, Rachid, t'es déjà parti au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne ou pas?
Non, jamais.
T'as pas eu l'occasion?
Non, jamais.
Bah, j'espère un jour que tu iras et que tu pourras nous amener.
Il y a la réputation d'être un stade bouillant avec une grosse ambiance. Et comme le disait Rachid, c'est un club historique français. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de les voir là. Ils sont dans une crise, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça a commencé...
Il y a 3 ans, moi, au moins.
Ouais, il y a un moment déjà, l'année dernière, ils ont fait une saison catastrophique en Ligue 1. À l'image de Bordeaux aussi, qui était dans la même situation, sauf que Bordeaux, étonnamment, ils s'en sortent bien en Ligue 2. Ils arrivent à jouer les premiers rôles, mais Saint-Etienne, c'est assez catastrophique.
Pour revenir un petit peu sur Caen, on va parler un petit peu de l'effectif cannais. Il y a notamment de bons joueurs dedans. Je ne sais pas si vous connaissez le gardien algérien, qui a la nationalité algérienne notamment, Anthony Mandrea. Anthony Mandrea, donc, il joue au poste de gardien. Niveau effectif, voilà, c'est l'effectif basique de Ligue 2. Ils font du bon boulot, notamment en match de Ligue 2, excusez-moi. Ils ont perdu 1-0 contre QRM. Donc ça prouve aussi la fébrilité, Rachid, de ce club. Ils peuvent gagner contre des gros, mais perdre contre les plus petits.
Ah oui, c'est clair. Hein. Ah, c'est clair, ils peuvent... Ah, non, c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Mais c'est comme ça. Hein,
Le
foot, c'est comme ça. De toute façon, il faut voir le championnat de Ligue 2, c'est compliqué, hein, de toute façon. Hein. C'est complexe, hein. C'est un championnat à la dure.
Ouais, et puis comme on disait, c'est serré. Il
ouais.
Y a pas beaucoup d'écart entre la 12e et la 3-4e place. Donc voilà, tout le monde peut battre tout le monde et c'est difficile. Même pour des équipes qui ont une renommée quand même et qui sont habituées à ce championnat-là, il peut toujours y avoir des surprises chaque week-end.
On va faire un petit pronostic. Il y a QRM qui va jouer contre Caen en match amical. Wissam, il nous a dit la date.
Oui, vendredi.
C'est ce
décembre.
Vendredi, voilà.
16 décembre.
16 décembre. Un petit pronostic. Vas-y, Rachid, tu vois qui gagner entre Caen et QRM?
Ouais.
C'est une sacrée question, ça.
Ah oui, c'est clair.
Non, ça, moi je vois QRM.
Ça joue à domicile.
Pour QRM, tu me poses une colle. On va vérifier ça avec Wissam, on continue.
Ben c'est quand à domicile.
Quand
à domicile.
Oh là là.
Ouais, mais un match amical, ouais, c'est dur de pronostiquer. Ouais, le but, c'est pas.
Vous avez vu récemment, il y a Arsenal qui a gagné contre l'AS Milan.
Ouais. Ah, c'est Milan.
Ouais, je vais dire QRM, vas-y.
Ouais, j'ai pas spécialement d'avis sur la question, mais comme je te disais, match amico, c'est surtout pour se préparer pour la reprise. Il n'y a pas vraiment d'enjeu.
Il y a un enjeu quand même. Tu testes les joueurs que t'as dans l'effectif pour la reprise. Surtout comme un club comme QRM, sachant que tu vas jouer le maintien, c'est quand même des matchs clés. En plus, ils vont jouer contre le PSG prochainement, les QRM. Ils avaient déjà joué cet été contre le PSG. Ils avaient perdu 2-0 avec un but de Ramos de la tête. Donc voilà, enfin, franchement, ces matchs-là, Axel, moi je dis qu'ils sont importants. Après,
oui, c'est des matchs importants, mais pas du point de vue du résultat. C'est des matchs qui comptent pour la préparation des joueurs.
Ouais.
C'est aussi un moment pour les joueurs pour se montrer au coach, essayer de gagner une place de titulaire, et puis pour le coach de voir quelles associations fonctionnent bien, ce genre de choses. Mais du point de vue du résultat, je pense que c'est pas ce qui intéresse les coachs.
Vas-y, Wissam.
En vrai, ouais, c'est plutôt important surtout pour les joueurs qui jouent pas d'habitude ou qui ont un petit temps de jeu dans, exemple, la QRM. Pour faire tourner, je pense que c'est juste important pour ça, mais en termes de statistiques, de championnat et tout, après là, il y a pas de choses qui vont changer, comme c'est un match amical. Ça reste un match amical.
On va donc changer de sujet. Merci à vous. Un petit peu de foot local, ça fait plaisir. La semaine prochaine, on continue notre tournée de foot local. Hein. On parlera notamment des autres clubs. On a des bons clubs, même ici chez nous. Hein. Le FC Rouen les Sapins, le FC Bois-Guillaume. Je vois Nicolas qui sourit. Oui, on va faire ces clubs-là, Nicolas. Je sais que tu tiens tant. On parlera aussi du Havre en Ligue 2, donc il y a 32 points. On espère qu'ils vont monter en Ligue 1, nos amis. Ouais. On espère ça. Je vous propose qu'on change de sujet. Une compétition qu'on adore. Une compétition qui est là toutes les 4 ans. Rachid, chaud patate. Nico, s'il te plaît, jingle Coupe du Monde. Coupe du Monde FIFA 2022. C'est bien, foutez-vous de ma tronche. Comme on dit, je vais être poli. Axel, tu rentends ma voix ou c'est moi qui fais les jingles maintenant? J'épaule un peu Nicolas. On va commencer par un peu de Coupe du Monde. On va parler des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales. Rachid, je te vois arriver. Je te vois arriver avec le Maroc. On commence par une rencontre, je sais pas si vous l'avez vu. Pays-Bas, États-Unis, la victoire des Néerlandais face aux States. 3-1. Franchement, c'était une victoire assez facile. Axel, vas-y.
Ouais, les États-Unis, c'était pas une équipe très impressionnante. Ils ont.
Bon, en phase de poule, quand
ils ont réussi à sortir des poules. Il n'y avait pas une poule très très relevée. Le Pays de Galles, c'était quand même assez faible. Et l'Iran, encore un peu plus. Donc voilà, ils ont réussi à sortir. C'est déjà bien. J'ai vu que leur objectif principal, c'était de préparer la prochaine Coupe du Monde qui sera chez eux. Donc voilà, c'est.
La prochaine Coupe du Monde.
Ouais. Oui, en 2026, ça sera Canada, États-Unis, Mexique.
Ah oui, je croyais que tu parlais des Pays-Bas. Je me disais.
Non.
Et notamment, on a donc appris la, bah, Louis Van Gaal, il a quitté ses fonctions. Ouais, voilà, c'était prévu dans son contrat. C'est Ronald Koeman qui revient au, Axel, je t'apprends une petite information. Ronald Koeman qui revient donc au poste d'entraîneur après le Barça. En fait, Louis Van Gaal, il avait prévu d'aller à la Coupe du Monde. Voilà. Là, ils se sont fait éliminer, malheureusement pour lui. C'est fini. Koeman revient. En plus, le pauvre, il a un cancer, donc on lui souhaite le meilleur pour la suite, lui et sa famille. Les États-Unis, Wissam, tu les as trouvés comment? Assez fébriles. Enfin, c'est un huitième de finale aussi, content pour eux.
Pour les huitièmes, si je parle depuis le début de leur Coupe du Monde, c'est quand même bien parce qu'ils ont quand même réussi à sortir des poules. Donc c'est déjà bien.
C'est
après, c'est correct. Mais après, pour les huitièmes, il y avait déjà un favori avant que le match commence. Tout le monde savait que... Peut-être pas tout le monde savait, mais en tout cas, le favori, c'est le Pays-Bas dans ce match-là.
Après, la Coupe du Monde, c'est une équipe de surprise. J'entendais nos confrères d'RMC qui disaient que réellement, en fait, finalement, il n'y a pas de petite équipe. Mis à part le Qatar qui nous a vraiment déçus. Finalement, les gros... même les équipes africaines, ils ont joué contre les gros. Avant, il y avait un petit complexe, tu savais un petit peu. Genre, si tu voyais un Espagne-Maroc, un Portugal-Algérie, tu savais que c'était un petit peu les équipes européennes qui allaient gagner, mis à part quelques surprises. Les équipes africaines les ont regardées droit dans les yeux. Je vois Rachid aussi qui me regarde comme ça. Aujourd'hui, je suis chaud sur toi, Rachid. Non, mais voilà, vous avez compris un petit peu. Le football, il a évolué. Ces équipes-là, ils ont montré de bonnes choses dans cette compétition. Et vas-y, Rachid, pour ce match.
Non, les États-Unis, j'ai bien aimé leur football. Franchement, j'ai bien aimé parce que ils ont quelques joueurs, franchement, ils ont donné des grands clubs. Et franchement, j'ai été étonné. Franchement, contre les Pays-Bas, c'est vrai que ça a été compliqué. Mais moi, j'ai bien aimé leur
mentalité, non?
Voilà, leur mentalité, mais même leur jeu. Avec comment il s'appelle, le fils de George Weah,
Timothy Weah,
ouais, qui a été vraiment très bon. Et franchement, footballistique, ils ont été vraiment exceptionnels. Franchement, c'était bien. Franchement, et c'est pas franchement, ils méritaient d'aller un peu plus loin. Mais bon, la Hollande, elle est connue pour ses gros qualités de joueur. Et donc voilà, c'est comme ça.
C'est ça. Merci Rachid. Je pense que de toute façon pour les autres huitièmes de finale, on va pas rabâcher, excusez-moi, tout ce que disent les autres médias. Ouais. On va faire à notre manière parce que on va parler de quelle équipe maintenant?
Ouais, là faut en venir au sujet principal.
Ah, Rachid,
le Maroc là.
Le Maroc.
Sur sa chaise.
Ça c'est sûr.
Le Maroc contre la France.
C'est parti, on va parler donc du Maroc. D'abord, on commence un petit peu par un petit parcours du Maroc. Le Maroc qui finit premier de sa poule. Historique, Rachid, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la poule?
Ah non, franchement, la poule
du Maroc avec la Croatie, le Canada et la Belgique.
Qui était relevé, hein.
Ah non, exactement. Moi, franchement, j'étais le premier à dire qu'on va finir troisième. J'étais le premier à dire ouais, on va pas s'en sortir, c'est fou. Les équipes, la Croatie qui était en finale en 2018 contre la France et la Belgique, je pense
demi-finale
aussi, voilà. Je dis oh là là, ça va être compliqué. Et finalement ils sont y arrivés, en plus premier du groupe, et en plus ils ont pris qu'un seul but à l'heure actuelle. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Et c'est vraiment exceptionnel, et là ils sont en train de nous faire rêver pour les pays du Maroc et pour le continent africain et pour tous les Marocains du monde entier. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magique.
Ouais, parce que c'est pas un braquage en plus, hein. On aurait pu se dire, ils sont sortis de la poule en y arrivant, en défendant au max et puis en ayant mis un ou deux buts par chance. Mais au final, la suite du parcours, elle montre que c'est vraiment tout sauf du hasard, parce qu'ils ont réussi à battre
l'Espagne
et le Portugal à la suite. Donc là, maintenant, c'est les Français qui doivent se méfier de cette équipe marocaine.
On va continuer un petit peu de parler du Maroc. Est-ce que juste le match contre l'Espagne, c'était un hold-up? Je vous pose cette question parce que l'Espagne domine, elle a eu notamment 76,8% de possession, mais en fait maintenant, enfin quand tu concrétises pas, tu te fais punir, c'est ça le football aussi. Tu peux avoir 10 000 occasions et avoir toute la possession, il suffit d'une fraction de seconde que le Maroc peut et voilà. Rachid, c'était un hold-up pour les Espagnols ou pas?
Ah ben attention, faut les Espagnols, elle est connue pour son football et je pense que le coach a sous-estimé le Maroc, parce que quand tu regardes, ils sont finis deuxième, ils se sont dit qu'on va rencontrer le Maroc, donc ça va le faire pour nous, et non, et ben voilà, Et je pense que leur coach a pas bien pris la situation.
Ouais, Luis Enrique, ouais, franchement. Ouais.
Et attention, ils ont pas eu 10 000 occasions contre le Maroc.
Enfin, non, dans les tirs,
ils ont,
je veux dire.
Ils ont eu de la possession, ok, mais ils ont pas fait grand chose avec le ballon, je trouve. Moi, je suis un adepte du football espagnol et là, j'étais vachement déçu de qu'ils ont proposé sur cette Coupe du Monde et particulièrement contre le Maroc. Comme je disais, ils avaient le ballon, ils faisaient beaucoup de passes. Mm. Mais c'était très peu dangereux. Et on a vu que le Maroc, ils étaient sur un bloc assez bas et que récupérer le ballon, ils ont réussi à se montrer dangereux plusieurs fois. Au final, ça s'est fini au tir au but. Ils sont passés. Après, on a vu que ils ont été capables de rééditer la même performance contre le Portugal en concédant encore une fois pas trop d'occasions, même s'il y en a eu deux ou trois ou
voilà,
quand
trois,
même,
ouais.
C'était chaud. Mais au final, ils ont même marqué un but. Donc, voilà, très belle performance.
Moi, je voudrais juste dire quand même, enfin, voilà, on a plusieurs coups de gueule aujourd'hui entre Rachid, ceux d'Axel et les miens. Mais franchement, quand t'es entraîneur de football comme Luis Enrique, franchement, la séance de pénalty, elle a été catastrophique. Je reviens juste contre l'Espagne, après on enchaîne contre le Portugal. Merci, Wissem. Donc, Pablo Sarabia, il a envoyé son tir au but sur le poteau de Yacine Bono. Bono, il stoppe ceux de Carlos Soler et de Sergio Busquets. Le Maroc, il réussit deux de ses trois premiers pénaltys avec Achraf Hakimi qui qualifie son équipe donc en quart de finale d'une Panenka. Franchement, les Espagnols sur ces tirs au but, c'était catastrophique.
Bah, tu sais, après, moi, je veux dire que c'est plus le mental qui a pris le dessus, je pense, hein.
Mais moi, je comprends pas, Rachid. Comment tu peux faire tirer Carlos Soler et Pablo Sarabia?
Mais en même temps, tu veux faire tirer qui? Il n'y a pas des grandes stars dans l'équipe d'Espagne. Voilà. Moi, quand tu me dis équipe d'Espagne, je vois pas un grand joueur où je me dis, ah oui, lui, je lui donne le penalty. Pour moi, c'est...
En fait, avant, il y avait Ra.
Attends, vas-y, finis ton propos.
Je voulais dire, avant il y avait Ramos, mais après, déjà de pas appeler Ramos, même s'il a été blessé pendant un long moment et tout, ne pas appeler Ramos, même pour le vestiaire et tout, pas appeler Ramos, c'est déjà une très grosse faute pour la sélection espagnole.
Ouais. C'est vrai, c'est totalement une grave faute. On en revient juste dans un instant, Wissem, je te coupe. On est avec notre intervenant du jour. Bonjour Hamza.
Bonjour.
Ça va Hamza?
Ouais, ça va et vous allez bien?
Ça va, je te présente un petit peu l'équipe qui est avec nous. On a Wissem.
Salut Hamza.
On a Axel.
Salut Hamza.
Et on a Rachid.
Salut Hamza.
Salut à vous les gars.
Comment tu vas Hamza après les matchs du Maroc?
Bah écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bah on a hâte de... Comme tout le monde, on attend la grosse demi-finale de ce soir. On a hâte de voir ça, voir ce que ça va donner. Donc je pense que comme vous, on attend tous 20h.
Bah oui, c'est sûr, avec ce beau match de football. Là, Hamza, si tu veux, on reprenait un petit peu le parcours de l'équipe du Maroc depuis les huitièmes de finale. On était en train d'aborder la fin du huitième de finale avec Wissem. Je te propose que tu participes à l'émission jusqu'à la fin si t'es dispo. C'est parti ou pas?
Ouais, bien sûr.
C'est parti. Wissem, finis ton propos, excuse-moi, sur Sergio Ramos, etc.
Alors, sur Sergio Ramos, bah, comme j'ai dit, de ne pas l'avoir appelé, tout le monde a été, on va dire, étonné. Et jusqu'à maintenant, même moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas appelé, même si.
Mais la méforme physique, hein.
Oui, je sais, ouais, ça, je le sais, ouais, mais même pour, même s'il aurait pas mis titulaire, au moins, même pour le vestiaire et tout, comme, j'allais dire, comme Adil Rami avec la France, même si c'est pas du tout la même chose. Mais même ne pas avoir appelé Ramos, c'est quand même très grosse faute.
Faute professionnelle ou pas?
Peut-être pas professionnelle. parce qu'après, Ramos, c'est pas comme s'il avait 30 ans ou 25 ans encore, mais quand même, Ramos, ça reste Ramos.
Ouais, et puis après, c'est pas. Enfin, je veux dire, les mecs qui prennent le ballon et qui vont tirer les pénaltys, c'est les seuls responsables de leur réussite ou de leur échec. C'est pas le coach ou Sergio Ramos ou je ne sais qui d'autre qui le tire à leur place ou qui leur explique comment on fait. C'est aussi à eux.
Tu sais, tu me parlais des joueurs qui potentiellement pouvaient tirer les pénaltys. On a Alvaro Morata, Iñaki Williams, Dani Olmo. On a qui? On a Busquets, il a raté.
Mais en fait, ils ont des attaquants, en fait. Ils font pas tirer leurs attaquants. Ça, même si Carlos Soler, ça va, c'est un milieu aussi des fois attaquant, mais c'est
ouais,
pas.
Mais c'est pas forcément les attaquants qui tirent le mieux les pénaltys, je pense. Ouais, c'est, bah oui. C'est surtout et particulièrement pour un huitième de finale de Coupe du Monde, comme le disait Rachid, c'est le mental qui joue. Dans quel état d'esprit t'es quand tu poses le ballon, que tu recules et que t'es face au gardien avec tout le bruit qu'il peut y avoir dans le stade et puis la pression pour on sait ce qu'il y a derrière, un quart de finale qui se présente. Donc je pense qu'il y a cette dimension là aussi et les Espagnols ils ont clairement failli et faut quand même en placer une pour Bounou, le gardien du Maroc qui a été monstrueux non seulement pendant le match mais aussi pendant la séance de pénalty.
Ah, Hamza, t'es d'accord avec ce que l'analyse de Wissem et d'Axel?
Oui, d'accord, à moitié, parce que si on parle de Ramos, moi je pense que c'est plus une histoire d'homme et d'ego, et de collectif, parce que pour moi, le groupe espagnol était bien, mais ça manquait de caractère. Comme ils l'ont dit, oui, ça m'est arraché. Maintenant, après, je suis pas surpris du parcours du Maroc, parce que sur ce match-là, d'accord, la position était espagnole, ils ont eu du jeu, mais ce qui leur a manqué, c'était un vrai neuf.
Merci Hamza, toujours une analyse pointillante. On va aborder l'autre rencontre. C'était Maroc, Maroc-Portugal. Merci, merci Wissem. J'en perds mes mots. Maroc-Portugal, vas-y Rachid, je te donne la parole. Toi, comment t'as vécu ce match? Oh, je me rappelle, Rachid, il était comme un fou. Il était comme un fou, le Rachid. Et Nesri, franchement, il a marqué un beau but. Après,
il a sauté haut.
Encore un coup de gueule. Le gardien. Je sais pas comment tu fais pour capter le ballon. Il avait quoi? C'était des pelles qu'il avait dans les mains. Du gruyère, le gardien. Enfin, les mains, c'est comme ça. Je sais pas. Vas-y, Rachid.
Ça, il a sauté vachement haut. Hein. Apparemment, il a sauté 2 mètres.
C'est pas le saut le plus haut de.
Cette Coupe du Monde.
Ou je crois Ronaldo, tu sais, le saut face à la Sampdoria.
Ouais.
Il me semble qu'il est plus haut, ce saut-là.
Ah, mais ouais. Il est allé très, très
ouais,
haut.
Il est parti vraiment, vraiment haut. Et là, tu l'as cherché. Et puis, il avait des dents. Et puis, voilà, non, franchement, c'était un match de trop. Il avait trop d'atrocité. Surtout les Portugais, j'avais peur. Surtout qu'ils avaient quand à faire rentrer ces Cristiano Ronaldo et les deux joueurs. Là,
Léo,
oh là là là.
Ah, Léo,
oui. Oh là 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 là. Heureusement qu'ils sont rentrés vers la fin. Parce que sinon, là, s'ils avaient rentré au début, je crois que ça n'était pas pareil.
Non, franchement, en plus, comme tu l'as dit, le Maroc, il a réussi l'exploit. En fait, je pense qu'on ne réalise pas trop que c'est un exploit, les gars. Même pour nos éditeurs qui nous écoutent, je vois Nico qui ouvre les yeux. C'est vraiment un exploit de Coupe du Monde. La dernière fois qu'une équipe africaine est arrivée en quart de finale, c'était qui, s'il vous plaît? Même Hamza, tu peux répondre.
Ghana en 2010.
Ghana.
Ouais,
le Ghana, c'est ça. Ça. Donc, ils avaient perdu face à
l'Uruguay
à séance de tir au but. Donc, c'est la première nation africaine à décrocher leur billet pour les demi-finales. À noter juste que, comment il s'appelle? Naïef Aguerd, voilà. Il était pas là. Il avait été remplacé parce qu'il
blessé,
avait été blessé, ouais. Donc, franchement,
il va peut-être revenir d'ailleurs ce soir.
Aguerd.
J'ai vu qu'il était incertain, mais qu'il allait peut-être jouer. Ce serait une bonne nouvelle pour le Maroc, parce que c'est un très bon défenseur.
Surtout hein, quand même assez rapide et tout pour essayer de tenir quelques jours.
Avec Romain Saïs.
Ouais, qui est très bon lui aussi. Hein. Mmh. Franchement, la défense du Maroc, moi, je les attendais pas à ce niveau. Hamza a dit qu'il était pas surpris de leur parcours. Moi, franchement, si on m'avait dit avant que la Coupe du Monde commence qu'ils seraient en demi,
j'aurais
jamais cru.
Il y avait 0,1 de chance qu'ils passent en demi-finale.
Ah non, mais moi, dès le départ, j'ai dit, ils vont finir troisième. Ah non, c'est sûr.
Ah, tu les voyais pas passer les poules?
Ah non, mais t'as vu le.
C'est vrai, après Croatie-Belgique.
Bah oui.
Voilà, c'est vrai.
Et puis, ils ont perdu des joueurs. Il y a Harit qui a été blessé avant la compétition.
Ouais.
Je sais plus, l'autre fois, j'entendais Walid Regragui qui disait ils ont perdu aussi 2 ou 3 autres joueurs, j'ai plus les noms. Mais pour une équipe comme le Maroc, perdre des joueurs comme ça importants, c'est quand même pas anodin. Et au final, ils arrivent quand même à s'en sortir avec une défense franchement assez impressionnante. Le trio Amrabat, Saïs et Aguerd, avec Bounou derrière, c'est vraiment du lourd.
Hamza, vas-y, t'as la parole.
Ouais, parce que vous avez dit, moi, j'ai pas vraiment été sur ça. Alors, surpris d'aller en demi-finale, oui. Mais moi, je le voyais peut-être faire un 8e pour un quart, hein, parce que au moment du tirage, pour moi, j'avais une analyse où je me suis dit que les 4 pouvaient passer comme les 4 pouvaient sauter. Parce que la Belgique de 2022, c'est peut-être le début de 8. La Croatie, dès le premier match, c'était toujours bon à les prendre. Bah, on a vu jusqu'où ils sont partis. Et le Canada, attention, c'est une équipe qui avait fini premier de ses qualifs là de CONCACAF devant le Mexique et les États-Unis et les USA, donc c'est pas à négliger. Donc tu regardes en fait cette poule, elle a démontré un peu le niveau de ces équipes. Maintenant, après, par rapport à ce soir, on va voir ce que ça va donner, parce que t'as le facteur blessé, comme vous avez dit les gars, où ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, après, en demi-finale, il n'y a plus de calcul. Le groupe est tellement concentré que faire rentrer n'importe quel joueur, je pense que tout le monde fera le taf.
Donc, en tout cas, ce soir,
je ne m'inquiète pas.
Il n'y a plus de surprise ce soir. Autant l'Espagne pouvait être surprise, le Portugal un peu moins, mais on peut dire que bon, un exploit, ça arrive une fois. Là, ils ont montré contre le Portugal que c'était plus un... En tout cas, pas une surprise, un exploit peut-être pas une surprise. Donc là, maintenant, la France est prévenue, donc on s'attend franchement à un gros match et j'ai hâte de voir ça, moi.
Ouais, mais pour ils en sont, moi, pour moi, c'est plus vraiment une surprise. Hein,
ah, non,
parce
non.
Que, quand tu vois le travail qui a été fait par Greg et son staff depuis le début, voilà.
En bon, très peu de temps, en plus.
Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, peu de gens auraient prédit une demi-finale. Déjà, faire un 8e, voire un quart, c'était bien. Mais là, c'est encore mieux. Comme je l'avais dit dernièrement, là, on est sur une génération d'entraîneurs où maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et puis maintenant, ils viennent avec une mentalité où c'est plus, allez, huitième, quart, c'est bon, ça nous suffit. Maintenant, ils veulent faire comme les nations européennes et les sud-américaines. Hein. Quand on vient pour une compète, c'est pour aller jusqu'au bout.
En plus, comme Axel et toi, Hamza, tu l'avais dit, j'ai l'information. En fait, c'était Aguerd et Mazraoui qui étaient blessés contre le Portugal. C'est Atiya Alla qui a occupé le poste de latéral gauche et Jawal El Yamik qui était associé dans la charnière avec le capitaine Romain Saïs. Franchement, là, on a fini ce match-là. On va aborder tous le match contre l'équipe de France ce soir. Franchement, on s'attend à un gros match de football. Rachid, vas-y.
Ah oui, c'est clair. Et là, c'est vraiment un match exceptionnel. Et en plus, Maroc-France, c'est exceptionnel. Et franchement, tout le monde va se donner à fond. Et franchement, ça va jouer dans
les détails.
Ah oui. Ça va se jouer sur moi. Ce qui me fait peur dans l'équipe de France, il y a trois joueurs qui me font peur. C'est Mbappé, Griezmann et Ousmane Dembélé. Ces trois joueurs-là, ils sont exceptionnels. C'est que ces trois joueurs-là, si tu laisses un petit couloir ou un grand couloir, ils vont passer. Et donc, il faut que vraiment notre défense fasse bloc. Et puis, surtout, il faut qu'ils aient surtout le mental.
Alors moi, je pense pour le match France-Maroc aussi, je pense que ça va être un match très compliqué, même si maintenant, on peut plus dire qu'il y a vraiment des favoris à 100%, parce qu'avec ce qu'ils ont fait le Maroc et la France depuis le début de la compétition, on peut pas dire qu'un favori à 100%, mais en tout cas, je pense que le match va être très difficile. Et après, le Maroc, ce qui est bien, c'est qu'on va dire qu'ils ont, entre guillemets, au moins un ou deux joueurs qui peuvent au moins bien défendre contre Mbappé, pour Hakimi du côté à Mbappé. Et après, El Yamik, si je me rappelle bien, c'est quand même un défenseur assez rapide. Donc je pense qu'aussi, à deux, ou peut-être même à tout seul, ils pourront essayer de contenir Mbappé, peut-être pas tout le match, mais un minimum.
Après, je pense quand même que la France est le favori de ce match. C'est les champions du monde en titre.
Exact.
Et quand on regarde le papier, le Maroc, il y a deux joueurs de Angers qui sont titulaires. Je ne veux pas manquer de respect à ce club ou quoi que ce soit, mais c'est quand même, quand on regarde l'équipe de France, c'est que les top joueurs, des joueurs qui jouent dans les top clubs européens. Donc il y a quand même une différence. À mon avis, l'équipe de France est quand même le favori de ce match. Après, j'ai vu la conférence de presse de Walid Regragui hier. Ouais. Il cache pas son ambition. Il a dit qu'ils étaient là pas pour faire de la figuration et dire que une équipe africaine est arrivée en demi, que c'est bien, il faut s'en contenter. Ils sont là pour gagner. Le coach l'a dit, donc à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est sûr et certain, ils auront les crocs comme à tous les matchs jusque-là. Donc ça sera un grand match. Et à mon avis, ça sera fort en émotion, surtout pour nous en France. On sait qu'il y a une grande communauté de Marocains. Marocain. Donc c'est un match qui aura une saveur particulière pour ces gens-là, à l'image de
Rachid.
Ah oui.
Non, franchement, avant qu'on passe à un petit tour de table des pronostics, moi je vais juste donner un petit peu mon avis sur ce match. On s'attend peut-être à une rencontre fermée, mais je vois pas les Marocains jouer en bloc. Bah honnêtement, le Maroc, honnêtement, j'ai vu la conf de presse, comme tu l'as dit, de Regragui. En fait, honnêtement, c'est pas une équipe qui va jouer bloc bas. Tu te dis, contre la France, ils vont reculer et partir en contre dès qu'il y a une occasion. Ils vont jouer leur jeu, en fait. Comme si c'était le Malawi, comme si c'était la Tanzanie. Tu vois, ils vont jouer leur football, en fait. Ce qu'ils savent faire, sans complexe. Ils vont jouer leur football, une charnière, des milieux, des bons milieux de terrain, des bons attaquants. Ils vont titiller l'équipe de France. Ça va être compliqué. Ah oui, on ne se le cache pas, ça va être compliqué. Oui. Même pour la France, doit se méfier hein, du Maroc. Parce qu'on l'a vu contre l'Espagne. Dominer, ça ne veut pas dire gagner.
Exact.
C'est concrétiser qu'il faut. Hamza, t'as la parole, vas-y.
Ouais. Sur le match, moi, comme je vous ai entendu, les gars, moi, je vais attendre plusieurs choses. Ça va être déjà la forme physique, même si une demi-finale peut oublier la fatigue. Mais j'attends de voir ce que Regragui va proposer tactiquement par rapport à Deschamps. Plus sur le système défensif et aussi sur le jeu de transition. Parce que autant sur le 8e, le Maroc a accepté de laisser le ballon aux Espagnols et de jouer la défense, tout en essayant d'opérer par contre. Autant contre le Portugal, vous voyez que la défense n'a pas été la même pendant un petit moment. Ça a un peu défendu lors du 8e, mais après, derrière, sur les quarts, Ils ont joué un peu plus. Il y a eu beaucoup plus d'opportunités. Et moi, je pense que on va sûrement assister à un match ouvert. Moi, je vois pas Regragui jouer la défense totale, sachant que devant, il a ce qu'il faut quand même pour poser des problèmes à cette équipe de France.
Après, pour moi, c'est pas non plus une insulte de jouer en bloc bas. Hein. Ils ont une grosse défense, c'est leur force principale depuis le début du tournoi. Donc, il faut aussi s'appuyer là-dessus. Regragui, il est arrivé il y a très peu de temps à la tête de la sélection.
Ouais, à la place de notre ami Vaïd.
Pour mettre des choses en place, c'est pas évident. Donc, lui, il s'est basé d'abord sur une grosse défense et pour l'instant, ça leur réussit bien. Donc, à mon avis, face à l'équipe de France, il n'y a pas énormément d'équipes qui peuvent se permettre de dire on va prendre le ballon, on va jouer et puis on va les faire tourner dans leur camp. C'est quand même compliqué quand on voit les joueurs qui en face. Je pense que pour le Maroc, ça sera quand même plus judicieux de jouer en bloc, si on dit pas un bloc bas, un bloc
équilibré
non plus, quoi.
Voilà. Pour l'instant, on a peut-être les combos probables, probable, voilà. Pour l'équipe de France, on aura Loris Okaj, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, pour la défense. Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, au milieu, et en attaque, Dembélé, Giroud, Mbappé. Il y a pas longtemps, et Rabiot et Upamecano sont tombés malades. On espère qu'ils seront bien sûr titulaires ce soir. Et pour le Maroc, ce serait Bonou, Hakimi, Yamik, Dari, Mazraoui. Donc, pas Lagarde, mais c'est des compos probables. Issaïs, bon, ils peuvent se tromper, mais bon, on verra.
Issaïs, si je me rappelle bien aussi, contre le Portugal, il était sorti à cause.
Tapé par physique.
Ouais, voilà, d'un truc aussi.
Il est sorti en pleurant, ça avait pas l'air
bon. Ouais, voilà, c'est ça aussi, je me disais. C'était pas aussi sûr à 100% qu'il allait être titulaire.
Bah, faut voir après ce que va faire Regragui, mais juste au milieu, on a Amrabat, Unai, la sensation de ce mondial qui joue au SCO d'Angers. Leicester, à ce qui paraît, hein, toujours dans le probable, aurait déposé une offre de 45 millions d'euros. Donc, ça, c'est une info que je vous transmets.
J'ai même vu le Barça, ils étaient intéressés, mais après.
Tous les joueurs marocains là, ils sont courtisés par les grands clubs à l'heure actuelle.
Oui, il y a grâce à la Coupe du Monde.
Après, juste on a
vitrine, la Coupe du Monde pour mettre en valeur certains joueurs.
Bah oui, comme une défenseur
comme vous, comme notre équipe.
On va Angers a besoin d'argent, voilà. Donc que ça doit bien les arranger.
Bah, Angers, situation catastrophique.
Ils peuvent augmenter les prix des joueurs marocains qui veulent vendre.
Ah, je t'étouffe pas. Tiens, Pedro. Donc on attaque, on aura Ziyech, Enesri, Boufal. Il y a eu, on a la stat à chaque fois qu'une des bons joueurs font un bon mondial. Pratiquement, je pense que dans cette équipe marocaine, plein de joueurs vont signer dans des top clubs. Est-ce que t'es d'accord avec moi, Hamza? Parce que franchement, au vu des prestations des uns et des autres, Saïs, il joue à Beşiktaş, il me semble, il s'est fait transférer cet été. Franchement, il y a des joueurs du Maroc qui méritent mieux. Amrabat, Liverpool, franchement, là, c'est exceptionnel.
Bah, ouais, mais après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait un pays africain qui fasse demi-finale de Coupe du Monde pour entre guillemets leur valeur marchande augmente, parce que je me souviens de Coupe du Monde où tu avais des pays qui avaient fait des beaux parcours, mais après derrière vu le marché qu'il y avait, bah malheureusement aucun club ne s'intéresse à ces joueurs, parce que c'était pas des Argentins, c'était pas des Brésiliens, c'était pas des Colombiens. Donc c'est un peu dommage, mais après sur ce que vous avez dit les gars, bah hâte de voir ça ce soir. Maintenant, après, moi il y a une question que je me pose, que je veux vous poser. Là, sur cette compète, il me semble que c'est la première fois où le Maroc va jouer à 20h, 22h, heure locale. Vous pensez que ça peut changer quelque chose ou pas? Même si je sais que au niveau du public, il va y avoir un très très gros contingent marocain ce soir, donc avoir votre avis là-dessus.
Tu sais, Hamza, je vais te dire mon avis, après l'équipe te dira son avis. Moi, honnêtement, je pense que c'est un facteur parmi tant d'autres. Je pense que les joueurs, là, honnêtement, Regragui, comment il te parle, il est dans une optique de « Allez les mecs, déchirez-vous ». Et je pense que, oui, c'est un facteur comme tu nous le dis, Hamza. Après, je pense que c'est un truc minime. Et je pense que les joueurs, ils penseront pas à ça. Pour moi, les joueurs, ils sont dans l'optique de la demi-finale. Ils sont dans le truc de « C'est parti, y aller ». Si on perd, de toute façon, on n'a rien à perdre. Mais moi, je pense qu'honnêtement, c'est mettre du grain dans le sable. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, les Marocains. Ça peut poser des problèmes pour certains joueurs. Mais après, voilà. Après, on a le public marocain qui est vraiment extraordinaire pendant cette compétition. Vas-y, Nicolas, tu voulais parler. Nicolas, technicien.
Ouais, voilà, vous parliez justement des joueurs là marocains qui allaient être peut-être vendus ou autres, et de leurs difficultés en club à être reconnus ou pas et tout. Mais il y a aussi la notion de jouer pour sa nation aussi, qui décuple les forces, hein, un petit peu comme j'allais dire comme dans XOR et tout, c'est un dessin animé, oui. Bref, et donc il y a cette notion là quand même qui est très importante. En plus, là, c'est la première première année où le Maroc arrive, enfin, il passe les tours les uns après les autres. Donc, évidemment que les gars, ça leur donne une force énorme. Et surtout, quand on regarde aussi le sélectionneur, c'est le mec, il apporte une fraîcheur de malade et tout, quoi. En conférence de presse, mais le mec, c'est un bonheur de le voir échanger, jouer. Donc, évidemment que...
C'est pas Domenech.
Tu joues avec ton pays et en plus, t'as un mec qui gère le groupe, qui doit mettre une ambiance de dingue et qui doit faire qu'il y a une cohérence et une cohésion entre tous les joueurs, ça doit leur amener une puissance en plus, quoi.
Ouais, ouais, et puis la Coupe du Monde, c'est un format particulier quand même. C'est sur 3 semaines, 1 mois. Il y a des matchs tous les 4-5 jours. Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est un tournoi, quoi. C'est ouais, ça bah que. Oui.
Non, mais c'est ça. Et c'est un format particulier où les joueurs, on dit souvent qu'ils sont dans un environnement un peu clos, c'est particulier. Et c'est pas la première fois qu'on voit des Coupes du Monde où il y a des joueurs qui se révèlent comme ça et qui après disparaissent complètement de la situation.
Oscar, une fois que le tournoi est fini. Le Brésil.
Oui, je pense à James Rodriguez en 2014, je crois, qui avait été sensationnel avec la Colombie. Transfert 80 millions au Real derrière et au final, il a été quand même vachement décevant, je trouve.
Juste pour reprendre pour la question de notre ami Hamza, je lui ai répondu, vous, qu'est-ce que vous en pensez, toi Rachid, t'es marocain, je te donne la parole. Le facteur de l'heure, est-ce que peut changer la donne pour ce match?
Non, pas du tout, je crois pas, non. Ils ont pas besoin de ça, comme tu l'as dit, non, pas besoin de ça. Mais ce qui devra savoir les joueurs, c'est que tout le continent africain est sur eux. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut dire que tout le continent africain compte sur eux. Quand tu dis que t'as les continents africains qui sont derrière nous, t'as tous les Marocains, les Algériens, tous les voilà,
Maghrébins, africains, les peuples musulmans, comme on disait Bouffal.
Tous les peuples. Français, Hervé Renard, il est derrière.
Bah oui, il a bossé là-bas. Après, s'il aurait pas bossé là-bas, peut-être qu'il serait pas pour eux.
Ah non,
ça peut te donner.
Est-ce que Vaïd, il est pour eux? Est-ce que Ali Lefzic est pour eux?
Je sais pas, il doit s'arracher les joues, il doit dire oh putain. Il doit parler avec son accent là.
Bonne imitation de Vaïd Ali Lefzic, Rachid. Non, franchement, Rachid, c'est comme tu l'as dit, c'est pour tout le monde en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout le monde derrière eux. Tout le monde, comme tu as dit, tout le monde derrière eux. Et voilà, il faut aller de l'avant. Et comme tu l'as dit, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, c'est que voilà, il y a. Le coach a dit que voilà, on continue dans ce chemin-là et il faut aller jusqu'au bout.
Il sera marocain.
Il sera marocain, bien sûr. Ouais. Juste pour dire que le Qatar, pays musulman. Maroc, pays musulman. Le Maghreb. Donc, le Qatar, honnêtement, il est plus pour l'équipe de France, pour l'équipe du Maroc que pour le Qatar. Qu'est-ce que je raconte? Il est plus pour le Maroc que pour France. Pour la France, voilà. C'est la fin de l'émission, là. Bientôt. Hamza, vas-y, on a répondu à ta question. Est-ce que tu es d'accord avec nous?
Ouais, bah oui. Là-dessus, vous avez tout dit, les gars. Donc, comme vous avez dit, l'un ne l'affectera pas, la fatigue non plus. Donc, surtout qu'en plus, il va y avoir un très, très contingent de supporters marocains. Donc, voilà, on va regarder ça tranquillement.
Nicolas, on va passer au Breaking News, s'il te plaît. Jingle Breaking News, s'il te plaît.
Exclusive.
Vas-y, mon petit.
De toute façon, si je leur avais dit la vérité, ils ne m'auraient pas cru, alors...
J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort.
Mais c'est pas la première minute. Et le but. Et le but. Le voilà. Le voilà.
J'ai tenu ma parole, en fait, Hamza, la semaine dernière. Axel, ici présent, qui porte aujourd'hui le maillot de l'équipe de France, lui avait dit que l'équipe de France allait perdre la semaine prochaine. Je lui ai dit, si l'Angleterre gagne, je fais un jingle. L'Angleterre a perdu, exclusiva, en espagnol exclusif. Je te dis que c'est moi qui a remporté le pronostic. J'avais parié 2-1 pour l'équipe de France, but de Giroud, but de Mbappé. Au final, Tchouaméni, Giroud, le roi des pronos, c'est moi.
Ouais, non, mais je dois m'excuser. Mais comme je l'avais dit, je suis très heureux de m'être trompé. J'avais pronostiqué une victoire de l'Angleterre, mais j'étais un fervent supporter français dans mon canapé. Pas, donc voilà, je m'excuse platement auprès de tous les auditeurs, je me suis trompé.
Et auprès de tous les Français, d'outre-mer, de tous les pays du monde. Juste, Hamza, tu restes avec nous, on va passer au coup de gueule du jour. Jingle, coup de gueule. Le coup de gueule de la semaine.
Les mots sont lourds, mais c'est tellement vrai.
On va donc passer au coup de gueule. Il nous reste 5 minutes. On va parler chacun va exprimer un petit coup de gueule pendant la Coupe du Monde. Je commence par le mien. On enchaînera avec Hamza, Rachid, Axel et Wissem. Moi, je trouve que mon coup de gueule, franchement, c'est contre France-Angleterre. Je trouve que Dayo Upamecano a fait des erreurs qui auraient pu nous coûter très très cher. C'était horrible. Moi, je trouve que franchement, t'es un joueur professionnel. Non, mais franchement, t'es joueur de football professionnel. Tu joues un quart de finale. Non, mais c'est vrai. Upamecano, quand il est dans la surface, il te fait un tac face à Kane. Je suis pas anglais, mais franchement, comme disent les jeunes, comme disent les jeunes alors que je suis jeune, comme disent les jeunes, j'aurais le seum. Franchement, sur cette faute, il y a pénalty, franchement.
Moi, c'est plus contre Théo Hernandez, je t'avoue.
Ah oui. C'est ton coup de gueule, vas-y, exprime-nous ton opinion.
C'était pas mon coup de gueule prévu, mais puisque tu vas sur ce terrain-là, je trouve qu'il est bien plus fautif que Upamecano.
Upamecano, c'est un croche-patte qu'il te fait.
Mais Théo Hernandez, il n'avait pas à faire cette faute-là.
Non, le ballon, il est 5 mètres au-dessus, il a rien à voir. Mason Mount, il était là, il regardait même pas le ballon. Il est arrivé derrière, il l'a.
En plus, Loris, il l'avait, je crois, non?
Oui, aucun danger. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Franchement, j'ai halluciné.
Ah oui, oui.
En fait, Théo Hernandez, il a fait ça juste histoire de se rassurer peut-être lui-même, mais en vrai, il n'y avait vraiment pas de danger.
Ça n'avait pas lieu d'être, vraiment.
Hamza, est-ce que toi, tu as un petit coup de gueule pour l'instant pendant ce mondial? On l'a exprimé ou pas, Mécano Hernandez, est-ce que tu en as un autre?
Non, pas vraiment. Au début, peut-être par rapport à l'arbitrage sur les fameux milieux de temps additionnels. Après, les fameux scandales qu'il y a eu sur les cartes de l'Argentine et du Portugal où il y a eu trop de chichis concernant l'arbitrage. Où on avait soi-disant avantagé les Argentins, mais à part ça, franchement, d'un point de vue général, sur ce mondial, il n'y a pas vraiment de coup de gueule à mettre, mis à part le petit quiproquo qu'il y a eu là ces derniers jours avec la fédération marocaine et les supporters marocains, dont la plupart qui malheureusement ne pourront pas accéder au stade ce soir, mais à part ça, non. Franchement, je pense que c'est peut-être l'un des seuls mondiales où il n'y a pas vraiment eu de très très gros coup de gueule.
Vas-y, Rachid.
Moi, j'en ai un coup de gueule, c'est que là, il y a une demi-finale qui va se jouer entre la France et le Maroc. C'est que t'as des personnes, la politique qui se mettent les doigts dedans.
C'était le mien aussi.
Et vraiment.
C'est dommage.
Ouais, c'est très dommage parce qu'ils sont en train de dire de tout et de n'importe quoi. Et c'est une Coupe du Monde. Donc c'est une Coupe du Monde, tu vas supporter ton origine, l'équipe dans ton origine, et je vois pas pourquoi.
Mais en fait, eux, ils parlent de l'assimilation après. Enfin, tu peux avoir des origines marocaines, mais t'es né en France. Oui, donc mais tu dois respecter la France entre guillemets.
Mais pourquoi? Si c'est France Argentine, si c'est France Portugal ou c'est France Angleterre, on va rien dire. Si c'était France Sénégal ou France Algérie. France-Tunisie. Là, tu vois, là, c'est vraiment.
Ah, ils vont dire, on n'aura pas le droit de s'exprimer.
Voilà, exactement. Et moi, c'est ça, c'est le coup de gueule qui est vraiment ça m'a énervé, ça. C'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, c'est pour se réunir. C'est du football, c'est du plaisir. Football. Et donc, voilà, on n'a pas rentré
Marine
la politique dedans.
Quoi. Dedans enfin, c'est...
Ah, ben, c'est pas la seule, hein. Ils l'ont tous réutilisé. Ouais. Enfin, moi, je comprends pas. C'est du foot. C'est deux équipes qui s'affrontent. Si t'es franco-marocain, que t'as envie d'être pour le Maroc, c'est en aucun cas tu manques de respect à la France parce que tu supportes le Maroc. Il y a beaucoup de franco-marocains d'ailleurs
qui
seront.
C'est l'histoire du pays.
Ils seront aussi contents si la France gagne.
Oui, exactement.
Mais déçu si le Maroc.
Voilà. Il y a les deux options. Dans tous les cas, t'es gagnant. Dans tous les cas, t'es perdant. Et tu peux pas forcer les gens à supporter une équipe ou une autre. Là, en l'occurrence, c'est France-Maroc. Si en finale, admettons, il y a France-Argentine. Je suis français, je suis pas argentin. Si j'ai envie d'être pour l'Argentine, est-ce que je manque de respect à la France?
Non.
C'est du football.
Exactement.
Choisis mon camp. Voilà, c'est comme ça. Après, forcément, on est français, donc on a tendance à être pour la France. On va pas supporter l'Argentine. Mais en l'occurrence, là, il y a une grosse communauté marocaine en France. Ils sont fiers de leurs origines et ils sont fiers de leur équipe, qui est pas habitué à arriver à ce niveau-là de la compétition.
Exact.
Pour la France, c'est plus habituel.
Oui.
On les a vus gagner en 2018.
98, ouais.
Voilà, il y a
18.
Des finales régulièrement, même à l'Euro, etc. Pour le Maroc, la dernière CAN gagnée, c'était en 1976.
Mon père n'était pas né.
Voilà, en Coupe du Monde, c'est rare.
Rachid n'était pas né aussi, non?
De ce genre.
Rachid n'était pas né.
Donc voilà, on comprend la ferveur qu'il y a autour de ça. Et pour moi, ouais, faut vraiment arrêter les messages de haine pour diviser. il y a que de la paix et on souhaite le meilleur aux Marocains pour ce soir.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On souhaite le meilleur pour le Maroc, pour la France, que le meilleur gagne.
Exactement.
Aujourd'hui, Rachid, tu seras arbitre de touche. Rachid, tu seras arbitre de touche. Si le Maroc gagne, t'es content. Si la France
gagne,
t'es content. La VAR, on ferait une émission spéciale dessus. Un gros scandale pendant cette Coupe du Monde. Ils ont exclu les deux arbitres français, Stéphanie Frappard et Clément Turpin. On aura l'occasion de reparler. Hamza, est-ce que je te propose qu'on passe au quiz du jour?
Le quiz du jour.
Hamza, est-ce que t'es prêt?
Ouais.
En gros, je t'explique. Le premier qui dit la réponse le plus rapidement a gagné. C'est une qualif. Chacun pour soi. Il faut que tu cries bien fort. Parce qu'en général, nos intervenants au téléphone, on ne les entend pas bien. D'accord?
Ok.
C'est parti. On commence par un jeu de capital. Même tout. Nico, soit tu veux jouer, soit tu fais l'arbitre.
Vas-y.
C'est parti. On commence par du facile. Quelle est la capitale du Sénégal?
Dakar.
Oh, mais arrête! Oh, arrête!
C'était instantané là!
Ah, j'ai fait ça, il a dit direct!
Ah, j'ai annoncé ce soir Yannis, je verrai.
Ah, ça y est, ça y est.
Il a révisé, il a révisé.
Ah ouais, là, il est chaud.
Capitale du Costa Rica.
San José.
Oh, arrête!
Ah ouais!
Eh ouais.
Vas-y, mon petit. Le Danemark.
Copenhague.
Oh, Wissem. Rachid, bientôt pour toi. Attends, Wissem, je note le point sur la feuille. Le Cameroun.
Yaoundé.
Oh, j'avais oublié. Ouais,
c'est bah, c'est pareil, j'allais dire.
Bon, il faut que je piège Axel.
Ah, il est costaud, lui.
Pays pas qualifié, la Macédoine.
Macédoine.
Tu fais moins le malin.
Ah, si, attends, je vais l'avoir.
Ah ouais, non, celle-là, je l'ai pas.
Skopje.
Putain.
Sérieux, c'est ça?
Excusez-moi des grossièretés, mais. Oh. Il a révisé.
Il a voulu. Là.
Bon, le Burkina Faso.
Voilà, non, je l'ai pas, par contre. Ah, si, peut-être.
Oh, bonne réponse de Hamza. Point pour Hamza.
C'est quoi? J'ai pas entendu.
Ouagadougou.
Ah oui, bah.
Ah, je sais pas.
On en fait encore deux. La capitale de l'Argentine.
Buenos Aires. Ouais, c'est pour Wissem.
Ouais, c'est
pour
Wissem. On en même temps.
On fait un duel Hamza-Axel. Une dernière capitale. La capitale de la Slovaquie.
Bratislava.
Et bonne réponse d'Axel.
Voilà.
Vous avez intérêt à gagner le quiz, parce que là, sinon, c'est foutu d'avance.
Moi, je suis fou. Out.
Nicolas, est-ce qu'on pourrait avoir la musique In The Red, s'il te plaît? Petite musique. Si tu l'as pas, c'est pas grave. On va donc... Merci. Merci, Nico. Hamza, là, c'est des questions sur de l'actu foot, sur de l'histoire footballistique. Comme tout à l'heure, chacun pour sa peau, crie bien fort. Tu es prêt?
Okay. Ouais.
C'est parti. Quel est le premier club professionnel de Ivan Perisic?
Sochaux.
Oh, arrête, arrête.
Ouais, c'est
vrai. Hamza, tu l'as
dit. Ah, il l'a dit avant, Hamza.
Oui, j'enlève le point pour Axel, ça m'arrange.
Moins fort que moi.
Deux points pour Hamza. J'en ai marre de voir Axel gagner à chaque fois, c'est plus du jeu. Écoutez-moi bien. Citez-moi deux coachs de l'équipe de France avant Didier Deschamps.
Laurent Blanc,
Domenech et Blanc.
Hamza l'a dit avant.
Non.
Axel, allez. Allez, Axel. Qui était le gardien du Brésil lors de la finale contre la France en 1998? Il l'a dit en premier. Claudio Taffarel, donc, qui a été sélectionné de 1987 à 98 pour 101 sélections avec le Brésil. Donc, point pour Hamza. Hamza, tu peux faire une remontada, on y croit. Question 4. Comment s'appelle l'entraîneur du Japon?
Un truc
bizarre. Va aider les logiques, je crois. Non, c'est... Depuis 2018, ce n'est plus lui.
Je sais pas, moi.
Non, je l'ai pas.
Moi, c'est pareil.
Non, Wissem. Il s'appelle Hashime Moriyasu. Il entraîne le Japon depuis 2018. Des petites stats juste pour l'info. Moriyasu, c'est 41 victoires avec le Japon, 8 nuls et 13 défaites. Franchement, belle Coupe du Monde. On aura l'occasion de. Bah, on fera un bilan de toute façon de toutes les équipes pendant cette Coupe du Monde. On passe à la prochaine question. Quel est le dernier club de Miroslav Klose?
La Lazio.
Oh, bonne réponse de Wissem. Bien joué. Attendez, je note Wissem sur ma feuille. Donc, Miroslav Klose, 2011-2016. Donc, l'Asie de Rome, 171 matchs pour 64 buts. On va passer à la dernière question. Citez-moi deux clubs de Walid Regragui.
We Dead.
Grenoble, je crois.
Ah, Grenoble, c'est en tant que joueur.
Il me semble que tu l'as dit avant, Hamza.
Il était Hamza.
Moi, j'ai dit les deux. J'ai dit le We Dead et le FUS de Rabat.
Ah oui, il a entraîné le FUS longtemps, c'est vrai.
Ouais, on avait demandé des clubs où il a joué, mais c'est pas grave. J'accorde le point à Hamza. Oui, il a joué à Ajaccio, à Toulouse, au Racing Santander, à Dijon, à Grenoble. Donc, on fait vite fait les comptes, 1, 2, 3, 4. C'est Axel qui gagne 1, 2, 3. 7 points. Wissem, 3 points. Hamza, 3 points. Rachid, 0 points. Nico, 0 points. C'est exceptionnel. Il a gagné plus de Coupe du Monde que l'équipe de France pour l'instant. 3. Hamza, vite fait, brièvement, est-ce que tu peux nous parler de l'émission où tu es donc chroniqueur? Parlons peu, parlons foot.
Ouais, c'est une émission qui a été lancée il y a un petit bout de temps. J'ai rejoint l'équipe en début de saison. Bah, je vous invite à suivre ça sur le réseau, hein, Instagram, Twitter, notre page YouTube. Où, bah, je te remercie justement, Yanis, d'avoir participé et d'avoir animé un petit peu la page hier pendant l'émission. Bah, on va aussi faire une émission ce soir pour débriefer la demi-finale entre la France et le Maroc. Bah, je vous invite à liker, à suivre et à partager.
Tu penseras à nous, hein, pendant ce match et pendant ce débrief, Hamza?
Ouais, bien sûr.
Ah oui, pronostic de Hamza.
Allez, je vais dire 2-1 pour la France.
Je dis 2-0 pour la France. Nicolas, ton prono?
2-0 aussi.
Wissem?
Moi aussi, je pense à un 2-0, 2-1, honnêtement.
2-0, 2-1. Bon, allez, 2-0. Vas-y. Rachid, toi qui es marocain?
1-0 pour le Maroc.
Oh, aïe, 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 aïe. Et Axel?
Ah, cette fois, je dis 3-0 pour la France.
3-0.
Après, Bounou aussi, Bounou, il est trop fort dans les cages. Bounou, il est vraiment...
Je pense que le verrou, il va sauter ce soir.
Le verrou, il a sauté, on n'a plus de temps. C'est fini, on n'a plus de temps. Hamza, je te remercie, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir dans l'émission. C'est chose faite, tu reviens très vite la semaine prochaine. Hamza, c'était un plaisir, franchement, de t'avoir eu dans mon émission. Un plaisir aussi d'avoir été dans ton live hier pour l'émission Parlons Peu, Parlons Foot. Il parle peu, Hamza, mais il parle bien foot. Merci, Hamza.
Merci.
À la prochaine, Hamza. L'équipe, je vous remercie, Wissem. Je te remercie, Wissem.
Merci, Yanis.
Merci, Axel.
Ah, merci, Yanis.
Merci, Rachid. On espère une victoire du Maroc ou pas?
Ah oui.
Allez, Dinam Aghareb, comme on dit chez nous. Vive l'équipe de France. Merci, Nicolas, la réalisation. Je vous dis à très vite. C'était Yanis et vous sur la radio HDR.